grand cirque. À la découverte des grands sites, un reportage sur les terres de Midi-Pyrénées.
Grand site Midi-Pyrénées, Moissac est une destination prisée pour son patrimoine exceptionnel. Le tympan de l'abbatiale Saint-Pierre et son cloître sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Étape majeure du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, la ville accueille chaque année de nombreux visiteurs et pèlerins.
Je m'appelle Chantal Freys et je suis conservateur du musée de Moissac et à la tête du service patrimoine, de façon plus administrative, de la ville de Moissac. Voilà.
Alors Moissac, ville médiévale, c'était un village au Moyen-Âge, Moissac. Comment cette ville est-elle née ?
Alors les origines, véritablement, sont encore un peu obscures. Mais on peut déjà parler d'un... Alors on parle de bourg monastique, parce qu'on est de... On se persuade, avec des arguments évidemment, de plus en plus que l'agglomération véritablement, peut-être pas les premières implantations humaines, hein, parce que les premières implantations humaines avec des villets un peu dispersées sur le territoire moissaguais existaient, mais l'agglomération véritablement semble prendre corps. Allez, on va dire au 11e siècle, en tout cas autour de son abbaye, de cette abbaye qui est si importante dans la vie et dans l'histoire de Moissac.
Si on devait regarder Moissac au travers de différentes grandes époques dans sa construction, quelles sont les grandes étapes, on va dire, et au travers des monuments que l'on peut voir dans Moissac?
Ben, là, il faudrait commencer par l'église de Saint-Martin, qui est en fait un document historique. Elle est modeste, elle ne paie pas de mine comme ça de l'extérieur. Mais en réalité, c'est un témoin tout simplement du basculement entre l'Antiquité et la christianisation, mais là on est en train de parler des 3e, 4e, 5e siècle. Donc on a des témoignages comme ça très haut. Alors vous allez me dire, mais c'est une église de Moissac qui n'existait pas. Eh bien voilà, on ne sait pas trop. On a des trucs épars comme ça. Mais en tout cas, il y avait des gens là et ils se faisaient enterrer dans les restes d'une villa ruinée au 3e siècle. Ils se faisaient enterrer chrétiennement. Ensuite, évidemment, avec l'abbaye, elle nous parle des 10, 11, 12e siècle. L'élévation gothique de l'église abbatiale, qui est toujours l'église paroissiale Saint-Pierre, avec le mobilier à l'intérieur, là, on est au 15e, début de la Renaissance. On a, pour le XVIIe siècle, pour la grande époque classique, là aussi une chose exceptionnelle. L'ancien collège des doctrinaires, qui est maintenant l'hôtel des impôts, et qui est en fait un des rares édifices d'enseignement comme ça, conservé dans son jus avec presque pas de modifications. Et puis, en fait, le tissu urbain moissaguais témoigne souvent de la prospérité, du port du XVIIIe siècle. Donc de très beaux hôtels 18e, très souvent voilà, avec cette façon qu'a le sud de pas trop en mettre sur la façade, sur la rue, mais avec à l'intérieur de très belles choses, des jardins et une façon de vivre de bourgeois enrichi par le commerce de la farine et le trafic fluvial vers Bordeaux. Ça c'est voilà. Ensuite Ensuite, le 19e, c'est la traversée de l'abbaye par le chemin de fer. Bon, c'est peut-être pas ce qu'ils ont fait de mieux, mais c'est fait.
C'est étonnant, cette voie de chemin de fer qui arrive. Et puis, au 19e, qu'est-ce que c'est l'idée ? C'est on fait fi du passé, tout ça. Il faut rentrer dans la modernité, donc on rase s'il faut raser, quoi.
Quand même. Donc, on a là... je dirais, à observer les débats, et c'est vrai que les habitants de Moissac, leurs prédécesseurs étaient quand même très, très, très majoritairement favorables au progrès qui devait faire échapper à ces vieilles lunes, un début de... Vraiment, tout ça s'est passé dans un mouchoir de poche, un début de prise de conscience du patrimoine, voilà, de l'intérêt pour le patrimoine, qui se mettait juste en place en 1840 avec la commission supérieure des monuments historiques. C'était juste le début. Et apparemment, parce que bon, c'est un peu confus, du Prosper Mérimée a sauvé le cloître, peut-être pas aussi simple que ça, mais cette commission, en tout cas, a sûrement joué un grand rôle pour éviter le cloître, ben de justesse, hein, de 2 mètres. Hein. C'est pas beaucoup. c'était pas gagné. Voilà, donc, voilà, les enjeux de ce siècle-là. Mais ça, c'est l'histoire aussi. Voilà, pour eux, le train était le progrès, comme pour nous, les autoroutes. Enfin, je veux dire, faut peut-être regarder le 21e siècle.
Le XXe siècle est loin d'être absent dans l'architecture de Moissac aussi.
Oui. D'abord pour une raison qui est en fait une catastrophe majeure de la vie de Moissac. En 1930, une inondation absolument qui touchait tout le sud-ouest, mais qui a été catastrophique pour des raisons techniques à Moissac, a mis à bas pratiquement tous les bas quartiers. Et par conséquent, il y a beaucoup, beaucoup... C'est devenu du coup maintenant une nouvelle richesse qu'on regarde de plus près. Beaucoup de quartiers avec une architecture 1930.
Architecture art déco.
Hein. Art déco, ouais. Art déco, on a parlé d'architecture art déco, d'architecture du soleil aussi. C'est à découvrir.
Ça fait véritablement partie du patrimoine. C'est-à-dire, quand on vient visiter Moissac, il faut bien sûr visiter le cloître, il faut bien sûr visiter l'église Saint-Pierre, mais il faut aussi aller quand même faire un petit tour dans ces quartiers, notamment près du Tarn, près du moulin de Moissac, et où il y a aussi l'Uvarium. Ah. Tiens, j'aimerais que vous m'en parliez de l'Uvarium, puisque on venait à Moissac en cure. C'était à quelle époque, ça ?
Ben, c'était précisément dans ces années-là, c'est-à-dire entre 1930 et avant la guerre. La guerre a mis un point d'arrêt à ces grands projets. Il y avait vraiment un dynamisme de nouveau après ces inondations, hein, après la mort. Il y a une espèce de... Et donc, alors, l'uvarium, ça veut dire le lieu uva du raisin. Et donc, l'idée... Parce que notre des spécificités moissagaises, qui est en fait un gros bourg rural, hein, qui vit de sa campagne depuis longtemps, c'est le chasselas, c'est-à-dire raisin de table, le seul à bénéficier d'une AOC, d'ailleurs, de fruits frais, qui a remplacé la vigne à vin à la fin du 19e siècle, phylloxéra, etc. Là aussi, d'une catastrophe est née une nouvelle. Et l'idée donc, dans les années 30, était de, au bord du Tarn, avec le grand moulin farinier transformé en grand hôtel, presque en palace, quand on voit les affiches, une cure uvale, c'est-à-dire venir boire durant une période donnée du jus de raisin frais qui avait... Alors, il y a eu des thèses de pharmacie, etc. Tout ça était très, très encadré, très sérieusement. le jus de fruits, de raisins frais, fait grossir les maigres, je me souviens, fait maigrir les gros, a absolument toutes les vertus pour tous les organes possibles, c'est sûr. Enfin, à mon avis, si on en boit une dizaine de litres par... Mais bon, je suis pas du tout... je suis pas du tout, du tout à même d'avoir des précisions médicales. Voilà, c'était cette ambition-là. Elle a pas beaucoup vécu. Ça a été vraiment... voilà, la guerre a mis... mal tout ce projet qui était porté par une entreprise privée, la Civoum, donc hôtel du Moulin, palace, yachting sur le Tarn, et puis le petit kiosque de l'Uvarium, comme ça, comme centre de cette chose un peu extraordinaire qu'une cure de raisin.
Alors dans ce panorama un petit peu historique de Moissac, on a oublié un monument important qui est aussi une voie de communication. C'est le canal, forcément, oui. Qui lui aussi, comme la voie de chemin de fer, traverse Moissac.
Ouais. Ils sont arrivés à peu près en même temps, quelques petites années près. Moissac, qui au début du 19e, poursuivait l'effort du 18e, c'est-à-dire faire des boulevards, faire des places un peu plus vastes, régulariser les rues. au milieu du 19e, il se voit vraiment bouleversé, parce que traverser en son milieu... par la voie ferrée et par le canal. Le canal qui est le canal de Garonne, et bon, à juste titre, beaucoup de confondent avec le canal du Midi. Le canal du Midi avait été fini au 17e, et le rêve de Paul Riquet, c'était de rejoindre Océan et Méditerranée. Et ce n'est que donc deux siècles et demi plus tard que faire rejoindre Toulouse à l'océan fut réalisé, et donc ça a traversé Moissac. Les travaux étaient finis en 1847 et la mise en eau se fait quelques mois plus tard.
Et pas simple, parce qu'il a fallu faire un pont canal aussi.
Voilà, hein? Donc ça contraint à des ouvrages d'art majeurs, pas uniquement Moissac, mais... Ils sont rares, donc un peu en amont de la ville se situe donc la traversée par le canal du Tarn, et pour ce faire donc un pont sur lequel coule l'eau du canal au-dessus du... C'est un magnifique ouvrage d'art, et puis voilà, c'est très curieux, ça a donné lieu à des scènes curieuses. Quand les péniches étaient encore tirées par les chevaux, on pouvait voir sur les bords du pont... le halage qui se faisait de cette façon, avec un bateau qui traversait sur un autre bateau.
Est-ce que ça a été là aussi ce canal une voie navigable, une voie commerciale importante pour Moissac? Parce que aujourd'hui le port canal de Moissac est un port touristique. On refait le canal des deux mers maintenant à vélo, à pied ou en pénichette, hein, pour se balader, mais à l'époque c'était des immenses péniches avec des mariniers qui vivaient en permanence dessus. Il y a eu même des films, hein, qui racontaient un peu ça.
Alors c'est vrai que c'est une chose passionnante. Alors maintenant, effectivement, tout ça a été converti en économie touristique, mais bien évidemment, le premier objectif de ce canal était commercial, et il était tout simplement, comme le sont les canaux, le moyen de faire du trafic fluvial toute l'année, de façon régulière, sans danger, sans... Et par exemple, les maigres, ils appelaient ça comme ça, les basses eaux au mois de juillet et août rendaient le Tarn complètement inutile. Donc le canal devait pallier les inconvénients d'une rivière naturelle, de cours d'eau naturel. Mais là, il y a eu un gros ouvrage, qui s'appelle Requiem pour une Garonne défunte, qui montre comment, en fait, ce projet de canal n'a pas été vraiment une escroquerie, on va parler d'escroquerie, mais quelque chose qui a été bien, bien, bien loin d'atteindre ses objectifs parce que les gabarits ne correspondaient pas aux embarcations, à l'essentiel des embarcations d'auparavant, des rivières. Donc il y a eu toutes ces difficultés. Qu'ensuite il y a eu des droits et qu'en fait, peut-être le fond de la question, quand on le sait tout simplement, c'est que la même compagnie gérait à la fois le train qui est arrivé presque en même temps et le canal. Et qu'on finit absolument avec l'auteur par se demander, et on a même un peu la réponse, si ce canal était viable à la naissance.
Ouais. Ils ont privilégié le train de toute manière et ils l'ont coulé eux-mêmes.
Ouais.
Quoi.
Ouais. Ouais. Mmh. Ça a été un des grands scandales au niveau national du 19e siècle. Mais bon, ça aussi c'est l'histoire. Maintenant, voilà, il n'y a plus de, concurrence véritablement entre le port plaisancier qui se développe vraiment, de façon très, très, très presque exponentielle. Le phénomène a commencé avec le canal du Midi, puisque je vais souvent par là-bas, et c'est vrai qu'on a d'abord vu les ports de Castelnaudary, etc. Et puis maintenant, c'est très répandu sur le canal de Garonne. Alors, il y a non seulement le Tarn qui traverse directement Moissac, mais je crois qu'il faut toujours avoir à l'esprit que la confluence, qui maintenant est plus lisible avec le barrage pour la centrale nucléaire, c'est moins lisible, mais la confluence du Tarn avec la Garonne, et donc grande voie de communication, puisqu'en fait, on disait que les fleuves étaient des routes qui marchent, disait je ne sais plus qui, Boileau, je crois. C'était très important, les voies navigables. Et donc, cette confluence a certainement été une des raisons, peut-être pas directement de l'implantation, parce que voilà, on n'y était pas, mais en tout cas, de la prospérité, Moyen-Âge, Ancien Régime de Moissac, très très certainement, parce que voilà, tout ce qui arrivait par la Garonne pouvait profiter au port de Moissac. Moissac était un port, ça fait à peu près le même effet que quand on parle de la marine suisse, mais Moissac est un port. Et c'est la raison de sa prospérité d'Ancien Régime, du 18e, qui était très importante.
Donc au 18e, mais pas au 11e. Au 11e, quand le cloître s'installe, il n'y a pas forcément...
On a quand même ce témoignage du poète, on va dire, bordelais, Ozone... si je me souviens bien, 4e siècle, qui dit que son intendant s'enrichit, à la limite, l'air jaloux, s'enrichit plus que lui, en faisant du commerce sur Tarn et Garonne. Donc que les échanges existaient et qu'il y avait un centre de marchands sur ces lieux-là. On ne peut pas les lier directement à ces époques trop, trop anciennes, à une agglomération moissagaise encore, ça on ne peut pas le faire. Mais voilà, c'était un lieu intéressant.
C'était une rencontre avec Chantal Freys, directrice du service patrimoine de la ville de Moissac.
Grand site, à la découverte de Midi-Pyrénées.